France Inter, le 13-14, Frédéric Barrère.
On va aborder un sujet grave. C'est un interdit universel et les verrous sautent autour du tabou de l'inceste et des violences sexuelles sur mineurs. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVISE, a livré hier ses conclusions intermédiaires. C'est un rapport d'étape en vue d'améliorer la culture de la protection des mineurs. Cette commission, la CIVISE, a été lancée en janvier 2021 après la déflagration causée par l'ouvrage La famille agrandée de Camille Kouchner. La CIVISE, une instance indépendante présidée par deux acteurs de terrain. Édouard Durand, magistrat, ancien juge pour enfants, et vous avez, Édouard Durand, publié « Défendre les enfants », sorti mi-mars au Seuil. Bonjour monsieur.
Bonjour.
En ligne avec nous également, Nathalie Mathieu, coprésidente de cette commission. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'association Docteur Bru et également de sa structure d'accueil de jeunes filles victimes d'inceste, ce qui est situé à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Alors d'abord, le constat, si vous voulez bien, il y a chaque année 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, le plus souvent dans le cercle familial. C'est un chiffre stupéfiant. Édouard Durand.
Oui, c'est un chiffre absolument considérable dont la société doit prendre la mesure. Le risque que nous courons n'est pas d'inventer des victimes, mais au contraire de laisser passer des enfants sous nos yeux sans les protéger. Il y a donc une urgence. Ces enfants existent, ce sont des enfants réels, ils sont victimes de viols et d'agressions sexuelles. Le devoir de tous est d'aller les chercher pour les mettre en sécurité.
Et alors, Nathalie Mathieu, je me tourne vers vous. On a aussi, selon les statistiques que vous donnez, un Français sur 10 qui a subi des violences sexuelles sur son enfance.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on remarque avec le lancement d'appels à témoignages que nous avons fait sous différentes formes, soit par une plateforme téléphonique, soit par écrit, et ainsi que les réunions publiques que nous organisons une fois par mois et des auditions individuelles, où les gens répondent massivement à cet appel à témoignage et viennent expliquer à quel point leur parcours de vie a été impacté par ces violences subies dans l'enfance.
Alors, premier axe de votre rapport d'étape, Édouard Durand, qui comporte 20 recommandations, c'est d'abord repérer les enfants victimes pour les mettre en sécurité. Comment on fait pour les repérer ?
L'agresseur a une stratégie, toujours la même, et dans cette stratégie, il y a imposer le secret à l'enfant, le réduire au silence. Si tu parles, je te tue, je fais exploser la famille, et de toute façon, personne ne te croira. Les enfants se dessinent souvent sans bouche, d'ailleurs, parce que parler, c'est interdit. L'agresseur a remplacé l'interdit de la violence par l'interdit de parler. Donc il ne faut pas attendre que l'enfant parle. Il faut lui parler, il faut aller chercher la révélation des violences. Il y a un moyen pour le faire, et un seul, c'est que tout professionnel travaillant avec des enfants pose à tous les enfants la question des violences subies. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Comment ça se passe à la maison? Si vous posez la question à l'enfant, d'une part il peut vous répondre, d'autre part, il sait qu'il peut vous faire confiance. Il sait que vous serez capable d'encaisser le choc. Parce que tous les enfants victimes de violences, qui devenus adultes, ont écrit, ont analysé leur parcours, l'ont dit, ce qui m'a empêché de parler, c'est la peur de ne pas être cru.
Alors, la peur de ne pas être cru, il y a aussi le fait que lorsqu'un enfant qui révèle qu'il a été victime d'inceste, 4 fois sur 10, vous notez que la personne à laquelle il se confie, son confident, ne fait rien. 4 fois sur 10. Là aussi, comment on peut faire évoluer?
La société fonctionne dans de multiples injonctions paradoxales à l'égard des enfants victimes eux-mêmes et à l'égard des adultes, parents ou professionnels protecteurs. Aux enfants, elle dit, vous pouvez parler, mais nous ne vous croirons pas. Aux mères protectrices dans les cas d'inceste paternel, elle dit « protégez vos enfants, mais si vous parlez, nous ne voulons pas entendre parler d'inceste, on dira que vous manipulez la justice ». Et aux adultes protecteurs professionnels, elle dit la même chose. C'est pour ça que les confidents, dans 4 cas sur 10, ne font rien. Il faut donc inspirer confiance aux professionnels et aux adultes protecteurs. C'est pour ça que nous disons pour les médecins, par exemple, il faut une obligation de signalement, et notre préconisation suivante est de dire « il faut protéger les médecins des poursuites disciplinaires ».
Alors justement, et là je me tourne vers Nathalie Mathieu, l'Ordre des médecins n'est pas du tout favorable à cette préconisation dont vient de parler Édouard Durand. Ils ne veulent pas d'obligation pour signaler un enfant victime de violence ou soupçonner une personne victime d'inceste. Vous en pensez quoi quelle est votre réaction, vous, à ce que vient de dire l'Ordre des médecins?
Alors c'est une position qui est ancienne. Hein. Dès qu'on parle d'inceste, nous, notre association travaille depuis 25 ans sur le sujet. Ça fait 25 ans qu'on parle de ce problème de manque de dénonciation par le corps médical dans son ensemble, hein, pas seulement les médecins. On ne voit pas pourquoi ce serait la seule profession qui n'aurait pas cette obligation-là. Et puis c'est la profession qui a accès au corps de l'enfant, à l'intimité de la famille quand ils font des visites à domicile. Et je crois que c'est important que l'ensemble des professionnels, comme vient de le dire Édouard Durand, en contact avec les enfants, se mobilisent pour repérer les situations de violence sexuelle.
Édouard Durand, sur les témoignages, on va parler après des préconisations, ce que vous demandez, mais sur les témoignages que vous avez reçus en un peu plus d'un an, 11 400 témoignages, je crois qu'il y a une personne assez âgée qui vous a appelé et qui a souffert pendant 60 ans avant de s'exprimer. C'est ça?
Oui, absolument. Et cette personne n'est pas la seule. Les personnes sont des personnes adultes, parfois très âgées, 75 ans par exemple. Nous avons lancé l'appel à témoignages le 21 septembre dernier. Aujourd'hui, nous sommes en mars. En 6 mois, plus de 11 000 personnes nous ont fait confiance. C'est dire à quel point la commission répondait à un besoin. Et le 21 septembre, des centaines et des centaines de personnes appelaient notre plateforme téléphonique et disaient « J'ai attendu ce moment toute ma vie ». Moi, il y a plusieurs leçons que je tire. La première, c'est celle-ci. J'ai attendu ce moment toute ma vie. L'autre leçon extrêmement importante, c'est ce qu'on peut appeler le présent perpétuel de la souffrance. Non pas un mauvais souvenir, mais l'aujourd'hui du mal. Et la société a un devoir de réparation à cet égard.
Alors on va aller au standard où Martine nous appelle, médecin scolaire pendant 32 ans. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Voilà, et vous regrettez la suppression des médecins et des infirmiers scolaires dans ce dossier-là.
Je regrette, oui. C'est-à-dire que je voulais surtout signaler que le recueil de la parole des enfants nécessite une formation très pointue. Parce que l'enfant... Effectivement, j'ai eu des enfants qui ont subi, que ce soit des incestes ou des maltraitances pendant très très longtemps, qui n'osaient rien dire et qui d'ailleurs n'étaient pas dénoncés effectivement par leur médecin traitant qui pourtant les voyait au domicile. Mais on me répondait, vous comprenez, si on se trompe, on est puni. J'aurais toujours dit que non. Moi j'ai signalé, mais si on n'est pas au plus près de l'enfant, il ne reste plus que l'enseignant pour recueillir une parole extrêmement difficile à recueillir et qui, eux, sont particulièrement vulnérables parce que c'est très difficile de faire un signalement sans pour autant être accusé quelqu'un. Il faut être formé. Et comme dans les écoles, moi, quand je suis partie, j'étais seule pour 10 000 élèves. Donc, les rapports.
On va vous répondre, Martine. Oui. Voilà. Parce que justement, la formation est l'un des axes de vos recommandations. Hein.
Bien sûr, oui. C'est toujours très important. Vous savez, j'ai été professeur à l'École nationale de la magistrature. La formation de tous les professionnels en même temps est essentiel. Il faut que tous les professionnels dans la chaîne de protection montent en compétences en même temps. Et plus la société est exigeante à leur égard, plus elle doit le donner les outils et les moyens pour agir. C'est bien sûr une nécessité.
Alors il y a un témoignage que l'on a recueilli de Mélanie sur l'application France Inter. Je vous le lis et je m'adresse à vous, Nathalie Mathieu. Mélanie nous dit que ma fille a été agressée sexuellement par un cousin quand elle avait 9 ans. Elle a attendu d'avoir 12 ans pour nous le dire. Nous avons porté plainte. Elle a été entendue. Cela fait maintenant 3 ans et nous n'avons aucune nouvelle de la justice. Que peut-on faire? C'est vrai que, Nathalie Mathieu, le retour, les informations, les familles, les victimes ne sont pas toujours informées de ce qui se passe en justice.
Oui, alors déjà, c'est pas toujours très clair pour les parents de quelle est la procédure exactement, donc il y a quand même un effort de transparence et d'explication à faire de la part de la justice. Et effectivement, une de nos préconisations, c'est de systématiser la notification verbale des résultats et notamment des classements sans suite. Il y a parfois des mesures qui s'éternisent et la victime ne sait absolument pas quelle décision a été prise et en tout cas personne ne va l'informer de la décision prise, qui n'est absolument pas normale et qui poursuit aussi le traumatisme subi.
Oui, alors Edouard Durand, je voulais revenir sur les personnes en situation de handicap, les enfants en situation de handicap qui sont très nombreux, on en parle très peu.
Oui, c'est très important et c'est un des devoirs de la Commission d'attirer l'attention de la société sur la situation particulière des enfants handicapés. Les personnes adultes handicapées en situation de handicap sont nombreuses à avoir répondu à notre appel à témoignage et notamment à notre questionnaire. Ce qu'on sait, c'est que l'agresseur, dans sa stratégie, recherche toujours une proie vulnérable. L'enfant est une personne vulnérable. L'enfant handicapé est une personne
encore plus vulnérable.
Ça, c'est la première chose, par ses difficultés d'expression, de motricité et ses fragilités qui sont liées au handicap. Et puis, il y a dans la situation particulière des enfants handicapés, un déni plus grand encore, un refus de voir, un refus de penser l'agression sexuelle et le viol contre un enfant handicapé. De sorte que, même, on va avoir tendance à interpréter les signes de la violence sexuelle subie comme une conséquence du handicap, donc à mal aiguiller la pensée et l'observation des professionnels. Il y a un grand chantier sur lequel la Civise est extrêmement attentive.
Alors dans votre rapport d'étape, Edouard Durand, il y a aussi des axes très importants qui sont aussi les soins à apporter le plus rapidement possible aux victimes et la réparation, et notamment la possibilité de faire appel lors d'un procès. Vous le mettez très en avant dans votre rapport d'étape,
oui.
Ce point-là.
Merci monsieur, ces deux points sont très importants à nos yeux. La question des soins d'abord, c'est une question de justice. Ces soins spécialisés en psychotrauma existent. Ne pas les donner aux enfants ou aux adultes qu'ils deviennent est une perte de chance inacceptable. La question est, voulons-nous que l'enfant victime puisse dormir ? Voulons-nous qu'il puisse apprendre à lire et à écrire ? Voulons-nous qu'il puisse avoir des relations et puis devenir adulte et avoir une vie relationnelle normale, comme vous et moi ? Eh bien, ces soins existent, mais ils ne sont pas suffisamment dispensés. C'est une urgence, ils doivent être dispensés très rapidement. Sinon, on ne peut plus que la vie durant de la victime que traiter les symptômes chronicisés. Ensuite, la place de la victime dans le procès pénal, c'est très important. Aujourd'hui, en l'état du droit, la place de la victime, elle est à l'écart, un peu à côté. Elle ne peut contester la décision qui la concerne que sur le plan de l'indemnisation. Mais qui est la première personne concernée par la déclaration de culpabilité de l'agresseur ? Par la peine ? Des victimes nous disent « moi j'ai pris perpétuité » et lui il se promène dans la rue ? La première personne concernée par le viol ou l'agression sexuelle, c'est la personne qui en est victime. Elle doit avoir le droit de contester la décision qui est rendue.
Nathalie Mathieu, une dernière question. J'ai noté dans votre rapport d'étape une phrase, c'est une réflexion, je crois, de l'un de vos témoignages, qui dit que ben voilà, l'inceste, les violences sexuelles, c'est pour la victime, c'est un poison lent qui infuse sur leur vie et tout au long de leur vie. C'est ce qui ressort, c'est ce que vous avez noté.
De tous les témoignages que nous recevons, c'est vraiment ce que les personnes disent, c'est que c'est comme un bruit de fond permanent dans toute leur vie et ça va entraver leur vie d'adulte, aussi bien dans la vie sociale, la vie familiale, le travail, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Et c'est pour ça qu'on a une préconisation aussi sur la réparation financière afin que ce préjudice qui dure toute la vie soit estimé à la hauteur de son impact.
Edouard Durand et Nathalie Mathieu qui étaient en ligne avec vous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
Merci.